Bonjour, bienvenue sur Anticosé TV, l'émission qui nous ressemble, l'émission qui nous rassemble. Alors, l'actu de la semaine, c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les samedis et on parle de l'actualité de la semaine. Alors, ce qui a été retenu pour ce soir, pour cette semaine plutôt, donc on va parler du budget de l'outre-mer qui est en hausse de 300 millions. Quels bénéfices concrets peut-on en attendre? On a le gouvernement, c'est lié, hein, donc le gouvernement qui lance France Mer 2030 zéro émission. Est-il réaliste d'arriver à zéro émission? Ensuite, on parlera du droit opposable à l'eau potable et on parlera aussi des prix dans les magasins qui s'envolent de plus de 25%. Et on parlera aussi de la fusillade qu'il y a eu encore au Robert, donc toujours violence dans les Outre-mer. Alors pour cela, on reçoit notre co-animateur, on va dire, Valsa Kamal, qui regardera cette actualité avec nous. On va débriefer, on va décrypter tout ça. Bonsoir Kamal Valsa.
Bonsoir, bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent et merci encore de m'inviter ce soir.
Alors, on va décrypter l'actualité de la semaine. Alors, vous-même, avez-vous passé une bonne semaine?
Oui, ça va encore. On n'est pas trop mal jusque-là. C'est vrai que j'observe l'écosystème, l'environnement, tout ce qui se passe, l'hiver qui arrive, le prix des carburants. Il faut savoir que maintenant, on a perdu 20 centimes sur les 30. Maintenant, on a que doit 10 centimes. Et donc, on regarde l'évolution des choses. Ça fait partie aussi de l'actualité de la semaine, le carburant qui augmente. Et voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça va.
D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, vous êtes aussi écrivain. Donc, votre entreprise, c'est Trustelec, hein,
Oui,
si je
c'est
ne
bien ça.
m'abuse. Alors, quelle est l'activité de votre entreprise?
Donc, Trustelec, c'est avant tout une entreprise de conseil, de consulting en informatique. Donc, on est là pour accompagner nos clients dans leur transformation numérique, mais on ne va pas seulement les accompagner qu'avec des mots, on va aussi les aider dans leur démarche. Ça veut dire qu'un client qui a besoin de mettre en place une transformation numérique, que ce soit TPE, PME ou même les particuliers, on va donner les bons conseils selon les besoins, mais aussi on va se mettre avec le client pour faire cette transformation. Ça veut dire dans l'achat du matériel, l'installation du matériel, la formation à l'usage du matériel. Donc, on va accompagner le client du début jusqu'à la fin, donc tout ce qui est matériel informatique, formation, sauvegarde de données, sécurisation des données et accès à ces données, même à distance. Qui travaille en France, il est en Chine ou autre, il doit avoir accès à ces données.
Merci, Kamal Vassin. Donc, je rappelle, le secrétaire d'État chargé à la mer, Hervé Berville, a
Oui.
dévoilé mardi le plan France Mer 2030. Alors, c'est un plan qui vise à accélérer la décarbonation, c'est compliqué à dire, du secteur maritime avec pour objectif le navire zéro émission. Donc, ça s'est passé lors des assises de l'économie de la mer à Lille. Alors, Kamal Valsin, que comprenez-vous dans le zéro émission que veut atteindre le gouvernement du point de vue de la mer?
Donc, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il veut dire par zéro émission? Effectivement, les navires, le transport maritime est l'un des grands pollueurs de la planète. Et donc, passer au zéro carbone, zéro émission, ça serait une bonne chose. Maintenant, quelles sont les technologies qui sont disponibles pour le faire? Donc, soit on revient à nos fameuses bateaux à voile. Donc, il faut aussi attendre à ce que la livraison, parce qu'on parle essentiellement de navires de livraison, de cargo et autres, au lieu de mettre 15 jours, il va falloir s'attendre à 2 mois pour atteindre la destination. Et comme on dit en économie, le temps c'est de l'argent, plus ça prend du temps, plus ça coûte cher. Ou bien on essaie d'aller sous des programmes type les sous-marins. Donc, on sait que beaucoup de nos sous-marins utilisent la technologie nucléaire. Donc, est-ce qu'il va falloir arriver à ça? Donc, c'est toute la question qu'on va devoir se poser et sur les technologies disponibles et capables justement de faire ce type de transition.
Alors, comment fait-on pour décarboner un navire? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus?
Donc, décarboniser un navire, comme je dis, c'est la aujourd'hui, comme je dis, la majorité fonctionne avec des moteurs à diesel. si on peut dire comme ça, un peu comme les avions qui ont des moteurs à kérosène. Donc, c'est beaucoup de polluants. Donc, à partir du moment qu'on veut décarboniser, ça veut dire qu'il faut utiliser des nouvelles
sources. Décarboner, pas décarboniser. Décarboner.
Non, effectivement. C'est, il faut utiliser de nouvelles technologies pour cela. Donc, d'un côté, on a les panneaux solaires, quelques navires sont déjà en test d'ailleurs, il y a eu pas mal de tests avec certains navires justement sur les panneaux solaires. On a eu d'autres avec des voiles, parce que ça existe aussi des navires qui sont en train de tester avec des voiles pour des grands cargos, des grands porteurs là-dessus. Et après, comme je dis, l'autre solution, c'est le nucléaire. Donc, on sait que c'est possible, on les utilise dans les sous-marins. C'est les seules solutions qu'on a actuellement pour le faire. Les autres solutions, je ne vois pas d'autres. On ne va pas mettre des batteries, charger des batteries à Paris. L'hydrogène pourrait être une solution. L'hydrogène.
Justement, je peux peut-être vous donner un exemple de possibilité. C'est qu'ils prévoient aussi de développer l'éolien en mer, qui existe déjà, pour produire des gigawatts, hein, et pour pouvoir les utiliser sur les nouveaux types de navires avec des piles à combustible.
Oui, les piles à combustible aussi. Mais développer les éoliens en mer, je ne me vois pas avec un navire qui s'arrête tous les 500 km pour faire le plein, pour recharger. Donc, il faut que ça soit des technologies embarquées et pas des technologies. Donc, je pense que tout ça mérite encore de la maturité, même au niveau des techniques ou des scientifiques qui vont travailler dessus pour trouver les meilleures solutions. L'avantage d'un navire, c'est qu'il y a de la place. Il y a de la place pour intégrer directement les technologies à l'intérieur. Contrairement à une voiture où on n'a pas beaucoup de place pour mettre ce qu'on veut, les navires ont cette chance d'avoir la place et on peut intégrer directement dans les navires les technologies pour justement, donc ça veut dire avoir la centrale dans le navire qui va propulser de ce navire jusqu'à destination.
Alors, pour préciser quand même sur l'éolien, je pense que l'éolien, c'est uniquement pour la production d'électricité. Mais on les place en mer, ça existe déjà. Hein, en mer, c'est développer l'éolien pour pouvoir passer, je pense qu'ils sont à 2 gigas, ils veulent passer pratiquement à 4 ou 8 gigas, donc pour la production et ensuite le stocker, enfin les charger sous forme de piles combustibles pour pouvoir équiper les nouveaux types de navires zéro émission, pour avoir du carburant propre, on va dire, ou un système de propulsion propre. Donc, c'est l'ambition qu'ils ont d'ici 2030. Alors, comment ça peut se répercuter sur l'outre-mer, sur les outre-mer, puisque nous sommes en pleine mer, les outre-mer, justement. Comment peut-on faire pour que ces 300 millions puissent profiter à l'économie des outre-mer?
Donc, effectivement, c'est une bonne question parce qu'on sait que les Outre-mer représentent la plus grande partie du territoire maritime français. Donc, comment ça peut effectivement profiter aux Outre-mer? Ben, toutes ces technologies, comme je dis, hormis le nucléaire qui souvent est plus ou moins autonome, toutes ces technologies nécessitent souvent beaucoup de maintenance, même le nucléaire, mais je vais dire une maintenance à terre. Et par exemple, si on parle des éoliennes, les piles à combustible qu'il faut recharger. Donc, les Outre-mer peuvent être une plateforme justement pour permettre à tous ces navires de venir se ravitailler, si j'ose dire. Ça veut dire se connecter et faire toute la transition qu'il faut en matière de maintenance remise à flot. Donc oui, c'est une opportunité de développer les industries et les entreprises en Outre-mer qui sont capables de fournir à ces navires. Donc ça veut dire, c'est comme si on va créer des stations-service quelque part. Donc ils viendront, ils s'arrêteront dans les Outre-mer pour justement permettre de se remettre à flot et continuer leur route. Donc ça peut être intéressant dans ce cadre-là.
D'accord. Alors finalement, ces augmentations de budgétaire viennent rejoindre le plan global qui le complète à hauteur de 2,4 milliards d'euros. Paraît-il que la SMA se verra dotée de 12 millions d'euros supplémentaires. Alors, est-ce que le gouvernement mise sur la SMA pour justement régler la problématique des jeunes? Parce qu'on voit que le SMA s'occupe beaucoup de réinsérer les jeunes qui sont soit en difficulté ou qui n'ont pas de travail. Est-ce que c'est une bonne chose?
Bon, Est-ce que c'est une bonne chose? Donc, on verra avec les résultats. Maintenant, est-ce que c'est un choix pertinent? Oui, parce que du fait que simplement la SMA a déjà un lien avec la mer et avec les jeunes. Donc, cette volonté de passer au zéro carbone va devoir développer des nouveaux métiers. Et la SMA est peut-être bien placée pour dire, voilà, nous avons déjà un pied dans la mer, nous avons déjà contact avec les jeunes, nous allons pouvoir développer les métiers nécessaires et aller chercher ces jeunes pour les former à ces nouveaux métiers. Donc, oui, c'est pertinent, c'est tout à fait pertinent de travailler avec eux. Maintenant, il faut donner une feuille de route avec des objectifs à atteindre en matière de création d'emplois, en matière d'innovation aussi, parce qu'on va exiger un système d'innovation de leur part. Pour justement que consommer ces 200 millions, eh bien, l'enveloppe qui sera donnée. Parce qu'il serait dommage qu'à la fin de l'année, que l'enveloppe reparte vers l'Europe ou vers la France.
Alors, on a les députés de la NUPES, hein, la NUPES qui dit que cette hausse n'est pas… Parce que bon, on a parlé des 300 millions pour zéro émission, mais ça fait partie d'un plan global, hein, de 2,4 milliards, comme je le disais. Et la NUPES dit que ce n'est pas grand-chose, parce que finalement, il résume ça à 200 millions d'euros supplémentaires. Et que ça ne représente pas grand-chose et que finalement, en parlant de la Guyane par exemple, qu'en finançant, en voulant financer une partie du développement, c'est parce que le gouvernement français ne veut pas qu'il y ait de développement endogène. Donc, il donne juste suffisamment, mais pas assez pour que ça puisse être satisfaisant. Est-ce que le développement endogène est une problématique pour le gouvernement, pour la métropole?
Je pense que c'est une problématique surtout dans la tête du gouvernement et de ces vieux amours qui sont là depuis le général de Gaulle. Pour nous, les ultramarins, c'est pas un problème. Ça veut dire que on est toujours dans cette optique ou dans cette idée que si les Outre-mer se développent, ils risquent d'avoir une insurrection, volonté de vouloir aller vers l'indépendance. Je pense que c'est un logiciel que le gouvernement garde depuis trop longtemps et qui n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est en 2022. L'indépendance n'est pas l'aspiration des peuples. Le peuple aspire à vivre correctement, à vivre dignement et sainement. Et donc, il faut développer localement l'économie par tous les moyens, que ce soit à travers les métiers de la mer, les métiers de l'agriculture, les métiers intellectuels. Il faut le développer pour permettre aux îles d'être autonomes. On parle de l'autosuffisance alimentaire et autres. Il faut mettre ça en place. Et ce n'est pas du tout vouloir une indépendance de dire, voilà, on veut plus de possibilités de s'en sortir de nous-mêmes. Donc, c'est un vieux logiciel qui date depuis le général de Gaulle, qu'il va falloir que l'État français accepte de mettre au rebut si elle veut vraiment se développer pour justement atteindre des objectifs et sortir du rang des cancres. Mais voilà, on a encore beaucoup de métiers pour faire, beaucoup de travail pour faire comprendre ça à ces vieux amours qui sont là depuis trop longtemps.
Alors, on va passer au deuxième sujet, qui est le droit opposable à l'eau potable. Alors, justement, le CESE, c'est le Conseil économique et social, je crois, prévoit enfin, propose une loi pour qu'il y ait un droit opposable à l'eau potable. Alors, qu'est-ce qu'un droit opposable, Patrick Kamal?
Donc, un droit opposable quelque part, si on ose dire, comme on avait vu avec le droit au logement, c'est une obligation quelque part pour l'État de garantir à chaque citoyen un accès à l'eau. Ce qui est normalement déjà le devoir de l'État, parce que ça fait partie des, j'ai envie de dire, des postes régaliens,
C'est
l'eau.
dans la charte, c'est dans la charte de l'ONU d'ailleurs,
Oui,
des
c'est dans la
Nations Unies.
charte, tout
Le
être
droit
humain.
à l'eau est un droit inaliénable.
Voilà, c'est quelque part. Donc, j'ai envie de dire, on aurait peut-être même dû constitutionnaliser ce droit parce qu'ils ont voulu faire entrer d'autres choses dans la Constitution. C'est ça qu'ils auraient dû faire entrer dans la Constitution. Et d'ailleurs, peut-être ça va être un combat de faire entrer le droit à l'eau dans la Constitution française. Donc, à partir du moment où ce n'est pas le cas, ce droit n'est pas respecté, le citoyen peut se retourner contre l'État et faire condamner l'État. C'était ça. Si on prend le droit au logement, c'était le même principe. L'État doit garantir l'accès au logement pour chacun à travers les préfets qui sont de proximité. Et quand le droit n'est pas respecté, on peut se retourner contre l'État, donc le préfet qui est en première ligne, pour exiger des réponses et on peut le faire condamner. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Et donc, si c'est le cas, je soutiendrai cette idée, mais aller beaucoup plus loin pour faire entrer dans la Constitution ce principe de droit à l'eau pour tous.
Alors, c'est pas simplement rendre l'eau accessible, parce qu'une fois que l'eau devient accessible, il faut aussi pouvoir contrôler le prix. Donc, rendre l'eau accessible et aussi contrôler le prix de l'eau, parce que c'est ça qui met un frein aussi à l'accessibilité à l'eau. Alors, oui.
Dans le concept, on ne peut pas dire contrôler le prix parce que l'eau n'est pas vendue. Ce n'est pas le prix de l'eau qu'on contrôle, c'est l'acheminement en réalité, parce que l'eau est gratuite. Donc, théoriquement, on ne vend pas l'eau, on vend l'acheminement, ça veut dire tout le service qui est mis en place. Et c'est ce service-là qu'il faut contrôler.
Et pourtant, le CESE rappelle que ce qu'il propose, c'est systématiser la mise en place dans les Outre-mer d'un tarif social de l'eau sous condition de ressources. Donc, on voit bien qu'il y a une notion de prix, de tarif. Ils veulent qu'il y ait, par exemple, la proposition serait sur un forfait de 400 litres d'eau par jour, par foyer, donc 150 mètres cubes par an, permettant l'accès à l'eau potable, à une eau potable de qualité pour tous. Donc, le droit opposable à l'eau potable serait sur cette base-là, sur 400 litres d'eau par jour, 150 mètres cubes par an, avec un tarif social. Puisqu'on le voit en Guadeloupe, en Martinique, l'eau est très chère et en plus, il n'arrive pas dans les robinets.
Bah, non seulement effectivement que l'eau est très chère et n'arrive pas dans les robinets, mais un véritable scandale, c'est du fait que les Guadeloupéens n'ont pas accès à l'eau dans les robinets, ils sont obligés d'aller acheter de l'eau en bouteille qui est encore 4 fois plus chère. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore pénalisés. Donc, c'est tout à fait louable et il faut le faire en sorte que le droit à l'eau rentre, voilà, devient vraiment quelque chose qui soit garanti par l'État et que si ce n'est pas le cas, qu'il y ait une condamnation. Comme on a dit, l'eau, c'est quelque chose essentiel à la vie. On ne parle pas de choses futiles où, voilà, on nous demande… On arrive à garantir de l'essence dans toutes les stations et on n'arrive pas à garantir de l'eau qui est essentielle à la vie. Donc, oui, il faut soutenir ce projet. Et si c'est le cas, je serai là pour justement porter au plus haut niveau ce projet de manière à s'assurer que les Guadeloupéens, quel que soit le français sous le département, dans un département de la France, puissent avoir un accès à de l'eau potable à un prix tout à fait raisonnable parce que, pareil, on n'a pas tous les mêmes budgets. Donc, que l'eau soit indexé sur le foyer fiscal, oui, pourquoi pas, je suis tout à fait d'accord.
Mais on pourrait pratiquement dire que le champagne coule à flot et l'eau ne coule pas.
Exactement, et parfois quand on fait au litre, l'eau coûte même plus cher que le champagne.
Bah, tout à fait, donc doit-on prendre des bains de son bain en champagne? Ce serait assez loufoque.
Ça finira comme ça. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement grave et malheureux parce qu'on ne peut pas, en 2022, avoir une partie de la population française, la France qui est quand même un pays riche, qui n'a pas accès à l'eau potable tous les jours. On a des enfants qui doivent se rendre à l'école, on a des familles, on a eu des problèmes, on a vu pendant le Covid, donc on a des problèmes sanitaires. Donc, l'absence d'eau potable pour un Français, entraîne des conséquences et des maladies qui sont beaucoup plus graves et qu'il va falloir aussi traiter. Donc, il est préférable de traiter le problème à la source, ça veut dire dès le début, s'assurer qu'il y ait de l'eau qui arrive au robinet, gérer les pertes, parce qu'il y a énormément de pertes sur la canalisation. Et ça, c'est un des gros problèmes qui fait que l'eau part des origines, mais n'arrive jamais aussi au robinet du citoyen. Et donc, chacun doit prendre ses responsabilités et comme je l'ai déjà dit, si les sociétés qui sont gérantes de cette partie-là ne font pas le job, mais il va falloir faire partie appel à l'armée pour régler le problème et il faut qu'il y ait des condamnations pour ça.
Alors, des propositions concrètes. Comme pour l'énergie, vous savez que suivant les conditions de ressources, on envoie des chèques énergie aux foyers français. Justement, on peut préconiser des chèques énergie, donc des chèques pour l'eau, de la même manière. C'est ce que préconise le CESE, qu'il y ait des chèques pour l'eau pour permettre aux foyers de pouvoir payer l'eau grâce à ça. Je sais que pour l'énergie, ça peut aller jusqu'à 194 euros, presque 200 euros. Donc, on pourrait penser, donc ça, c'est à l'année, hein, par contre, hein, c'est à l'année. on pourrait peut-être penser, comme le propose le CESE, une pratique, une même pratique sur l'eau. Mais pour ça, parce qu'il faut aussi dire les choses, dans la recommandation du CESE, il faut que l'assainissement du réseau soit réalisé. Parce que bien souvent, l'eau, quand elle arrive dans les robinets, elle est impropre à la consommation. D'ailleurs, la ville de Goubert, dernièrement, a été obligée d'interdire la consommation de l'eau, alors que l'eau arrivait. Alors, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à réaliser.
Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, bon, dans un premier temps, ce chèque, c'est une bonne idée, mais pas maintenant. Parce que avant de vouloir mettre en place ce chèque, il faut s'assurer que les gens aient l'eau dans leur robinet. Si je mets en place un chèque de 100 ou 200 euros et les gens n'ont pas d'eau, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils iront acheter des bouteilles d'eau. Et l'inflation va faire que les vendeurs, parce qu'on connaît leur principe, d'ailleurs tous les magasins sont détenus par les mêmes, ils vont naturellement augmenter le prix des bouteilles. Et donc, là encore, ça va pas bénéficier aux citoyens. Il faut une obligation aux gestionnaires de mettre en place toute l'infrastructure nécessaire pour que l'eau arrive dans les robinets. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut une eau de qualité saine. Parce qu'on a parlé de l'eau avec les pertes, avec les fractures sur tout le réseau. Donc, l'eau devient impropre. Mais on a une canalisation qui date de plus de 50 ans, une canalisation qui est contaminée au chlordécone. Donc, qui fait que même quand l'eau arrive dans les robinets, elle n'est pas consommable. Donc, ça veut dire le Guadeloupéen, il passe son temps à acheter d'autres filtres pour refiltrer l'eau qui est censée être potable. Donc là aussi, il y a un problème. Donc, toute cette canalisation doit être remplacée, mettre en place une eau de qualité du début jusqu'à la fin. Et une fois qu'on a cette eau qui arrive et qui est de qualité, oui, effectivement, il va falloir parler du chèque parce que, comme je dis, beaucoup de familles ont des difficultés. Donc, le chèque, justement, pour l'eau, oui, c'est tout à fait pertinent dans ce cadre-là. Mais d'abord, on règle les problèmes et ensuite, on met en place le chèque. Et comme je dis, pour régler les problèmes, il va falloir maintenant faire appel à l'armée parce que c'est beaucoup trop grave.
Alors, le CESE pointe aussi du doigt que 20% seulement des foyers ont accès à l'eau dans l'eau collective, hein, de manière collective, en Outre-mer. Donc, 20%. Et dans l'Hexagone, c'est le contraire. Donc, il y a une vraie disparité. Et pourtant, c'est un rapport qui date de octobre 2022, donc c'est très proche. On parle encore de la chlordécone et qu'il faut traiter les conséquences de la pollution au chlordécone qui est toujours présent dans l'eau. Donc, ça veut dire que même si vous avez de l'eau, vous avez toujours cette problématique d'empoisonnement à l'eau par la chlordécone. Alors, je pensais que c'était quelque chose qui était… dont on s'était occupé, eh ben non, c'est toujours d'actualité. Donc, ça veut dire que vous buvez de l'eau de chlordécornée.
Oui, ça veut dire constamment, vous buvez la mort quelque part. Parce qu'il y a un problème de captage de l'eau. On sait que les sols sont contaminés à plus de 52% en Guadeloupe, idem pour la Martinique. Et donc, tous les points de captage… le chlordécone, la problématique de cette molécule, c'est qu'une fois qu'il est dans une molécule, soit tout dans le sol, c'est parti pour 700 ans. D'accord? Et on ne sait pas encore comment traiter. Maintenant, on a des bonnes nouvelles. On sait qu'avec du charbon actif, on arrive à filtrer cette eau. Donc, il y a deux choses à faire. D'un côté, changer les points de captage. Il faut aller chercher l'eau en hauteur. Effectivement, ça coûtera plus cher l'acheminement. Mais
des systèmes d'épuration aussi. Il faut mettre en place des systèmes d'épuration.
On a vu, on a cette malheur de sargasse qui nous tombe dessus. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu des entreprises en Outre-mer qui ont su, à partir de ces sargasses, créer du charbon actif qui, justement, arrive à dépolluer l'eau avec une qualité extraordinaire. Donc, là aussi, il va falloir financer ces entreprises pour mettre en place ces éléments et donner gratuitement des filtres aux citoyens pour, justement, filtrer l'eau. Donc, voilà quelque chose de simple que, déjà, l'État peut mettre en place pour ceux qui reçoivent l'eau dans le robinet, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, utiliser des filtres à charbon actif. Donc, ces entreprises qui ont été capables de le faire, mais il faut les financer pour que les filtres soient gratuits. Ça ne doit pas être des choses payantes. Et de l'autre côté, changer nos points de captation, ça veut dire aller chercher l'eau beaucoup plus en hauteur, dans les coins qui ne sont pas contaminés, mettre en place toute une le transport de l'eau en changeant tout le réseau pour avoir un réseau beaucoup plus propre, parce qu'il n'y a pas seulement le chlordécone. On parle aussi, on a eu des reportages où on disait qu'on trouvait des matières fécales dans l'eau. Donc, y a un problème. Donc, c'est tout ça.
Alors, ça fait des années qu'on en parle. Quand on pense que la problématique a été résolue, la problématique, elle est toujours d'actualité. Donc, ce qui fait que ça fait plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans
que
l'on est dans cette situation, que la contamination continue. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que les citoyens ne doivent-ils pas s'organiser et se constituer en partie civile, dans des associations, porter plainte contre l'État? Quel est votre avis là-dessus?
Il y a deux choses. Effectivement, d'un côté, les citoyens doivent s'organiser, ils doivent reprendre en vie leur santé. C'est la première. Déjà, il faut en parler comme ça, dire aux citoyens, reprenez votre santé en main. Il faut que les coupables soient condamnés. Bon, on a eu Michel Chauvy qui est décédé parce que le problème date aussi depuis cette époque. Donc, elle avait aussi sa responsabilité là-dessus.
Et là, aujourd'hui, on parle de solutions. Pour le public. Hein.
Oui, solutions simples. Déjà, la première des choses, comme j'ai dit, effectivement, le public va s'organiser et il faut des procès pour que ceux qui sont coupables payent pour leur crime. Mais de l'autre côté, moi, je l'ai toujours dit, il faut faire maintenant appel à l'armée parce que la situation est beaucoup trop grave pour faire attendre encore. On ne va pas attendre la fin d'un procès pour savoir qui va payer et ensuite reprendre une entreprise. On a les capacités, on a les compétences, on a tout ce qu'il faut au sein de l'armée, notamment le RSMA qui se trouve en Martinique, en Guadeloupe. On peut prendre l'armée et mettre l'armée sur le terrain en disant voilà un chantier. Et ça sera aussi un entraînement pour l'armée parce qu'on connaît aussi les catastrophes qui vont nous tomber dessus au fur et à mesure. Donc, l'armée sera déjà entraînée à mettre en place tout ça. Donc, moi, je dis qu'il faut faire appel à l'armée pour remettre en place quelque chose de correct, de bon, et en même temps, en parallèle...
Mais l'armée, à quel titre? Parce qu'il faut des professionnels pour pouvoir changer les réseaux, la tuyauterie, etc., etc. Donc, il faut que... Est-ce que l'armée forme des personnes pour ça?
Non seulement l'armée forme, mais l'armée a toutes ses compétences. L'armée, c'est plus de 300 métiers. Donc, toutes ces compétences dont on parle, ils se trouvent à l'armée. D'ailleurs, beaucoup de jeunes qui sont passés par le service militaire et encore en Martinique, en Guadeloupe, le RSMA, beaucoup de jeunes rentrent à l'armée, sont formés à des métiers. Et ces types de métiers, ils sont formés quand ils rentrent dans la vie civile. Ils ont un métier avec un diplôme grâce à l'armée. Donc, on sait que l'armée est capable de faire le job. Donc, l'armée est déjà payée par le service public. Donc, ça veut dire que ça ne nous coûtera pas des salaires supplémentaires. Effectivement, il va falloir qu'on dépense pour le matériel. Donc, ça aussi, là, on parle de santé. C'est un cas d'urgence de santé.
De santé publique aussi.
Donc, il faut faire appel à l'armée pour prendre les choses en main immédiatement parce que chaque jour, on compte des morts. Chaque jour, on a des...
Alors, finalement, Kamal Valsa, finalement, je pose la question... on a vu ce qu'a donné le droit opposable pour le logement, le DALO. 10 ans après, la problématique n'a pas changé. On a vu que l'exercice du droit opposable à l'État ne fonctionne pas forcément, même ne fonctionne pas du tout. Alors, est-ce que ce n'est pas une énième usine à gaz, cette proposition du droit opposable à l'eau? Est-ce que finalement, ce n'est pas, détourner la vraie problématique de résolution du problème? Parce que c'est un problème qui doit être résolu. Ça ne devrait pas passer par un droit opposable. Ça devrait être résolu puisque l'État a les moyens de le faire au niveau de la capacité financière, puisqu'on voit que l'État a quand même quelques ressources, hein, on le voit surtout aujourd'hui. Et que il y a urgence, et que il y a justement cette inégalité entre les territoires et les départements qu'il faut absolument faire cesser rapidement. Alors, est-ce que vous êtes pour ce droit opposable à l'eau, ou est-ce que vous dites je suis pour, mais qu'est-ce qu'il faudrait rajouter?
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que j'aurais voulu qu'on n'arrive pas là. C'est dommage qu'on arrive à vouloir mettre en place un droit à l'eau alors qu'on est dans un pays extrêmement riche. Donc, je suis pour, mais je dis que si on fait appel à l'armée, on peut résoudre le problème. Contrairement au droit opposable au logement, où il manque des logements, or la construction du logement dépend essentiellement du privé.
Là, on ne manque pas d'eau. Là, pour le coup, on ne manque pas d'eau.
Voilà, on ne manque pas d'eau. Les logements dépendent essentiellement du privé. Il y a un problème de foncier. Ça veut dire qu'il faut se mettre d'accord entre la mairie, les communes, la préfecture et le privé. Et il y a aussi un problème, comment je peux dire, dans la construction, c'est le coût. Il y a un problème de coût des matières premières et autres. Ça ne devait pas être le même problème pour l'eau, parce que si on fait appel à l'armée, on va court-circuiter tous ces problèmes parce que l'armée est déjà financée, est déjà payée, est déjà prise en charge par les impôts. Donc, il n'y a pas de coût supplémentaire. La matière première, donc c'est les tuyaux, c'est des choses qui se fabriquent aussi en France. Donc, l'État peut prendre en charge ça et ça ne va pas coûter tellement que ça à l'État parce qu'on voit qu'une
Mais on
bombe.
parle de 1
Oui,
milliard quand même, hein.
mais une bombe, vous savez, je travaillais pas mal d'années pour Thales et TDA, des fabricants d'armes. Donc, je pourrais te donner quelques prix de ces petits trucs-là qu'on balance qui sert en une seule fois. Donc, c'est pas trop un problème pour l'État. Donc, le droit opposable, le droit à l'eau, oui, mais j'aurais préféré qu'on se concentre d'abord sur restaurer une situation qui est catastrophique. Par l'armée, qui a la compétence et les moyens pour le faire immédiatement pour éviter de continuer à tuer les nôtres. Et c'est ça le gros problème. On ne peut plus attendre.
Alors, Kamal Vassin, alors je dis pour ceux qui nous écoutent, hein, puisque on a dit pas mal de choses et que les sources sont identifiables. Donc, c'est le rapport du CESE qui date du 25 octobre 2022, et c'est un rapport qui a été fait par, alors je vous le dis, hein, c'est un rapport qui a été fait par Michel Chaix du groupe CGT et Sarah Mouhoussoun du groupe des Outre-mer, au nom de la dégalation, au nom de la délégation aux Outre-mer, présidée par Eric Lung. Voilà, donc ça, ce sont les sources, parce qu'on fait un fast-checking rapide, on le fait nous-mêmes. Ensuite, on va passer à un autre sujet qui est toujours relié à cette problématique d'inégalité ou d'égalité réelle, qui est les billets d'avion. Les billets d'avion, on a vu que après l'appel de Serge Letchimy, le coup de gueule de Serge Letchimy pour qu'il y ait comment dirais-je, une correction au niveau des prix et qu'il y ait un tarif comment dirais-je, maîtrisé pour l'outre-mer, on voit qu'il y a une relance de cette proposition et la DGAC, qui est la Direction générale de l'aviation civile, nous dit que les prix des billets d'avion pour l'outre-mer sont plus élevés de 25 à 30 %. Donc, depuis la dernière fois qu'on a discuté, il y a eu une augmentation de 25 à 30 %. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire concrètement? Est-ce que, donc c'est la Fédération des socialistes, hein, qui ont repris le relais pour relancer le gouvernement par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de manière plus ferme qu'Amal Valcin par rapport à cette problématique?
De manière ferme et une fois pour toutes, l'État doit mettre la main à la poche. C'est aussi simple que ça. L'État doit décider en disant, voilà, on va fixer les tarifs pour les Outre-mer. Et l'État est capable de le faire parce que la majorité de ces compagnies, l'État les a soutenues pendant la crise, quand ils étaient en difficulté. Les Outre-mer sont en difficulté à cause de ça aussi, parce que le prix des matières, le prix des éléments, de matières premières, tout ce qui arrive est lié aussi au tarif du transport. Donc l'État doit dire stop et c'est à l'État de prendre en charge la partie supplémentaire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas 1 000 solutions, c'est à l'État de prendre en compte.
Alors, on a Béatrice Bellay qui a communiqué, qui a chatté, hein, qui a dit, alors que certains patrons de compagnies aériennes annoncent déjà une nouvelle hausse des tarifs de billets d'avion, j'ai pris position clairement avec mon homologue de Guadeloupe, Olivier Nicolas, pour la mise en place de la dotation de continuité territoriale. L'État doit assumer sa responsabilité, ses responsabilités. En Corse, il sait le faire.
Oui.
Donc, pourquoi ne le fait-il pas pour les Outre-mer?
Non, c'est la grande question qu'on peut se poser. Pourquoi l'État, effectivement, quand il s'agit de la Corse, prend ses responsabilités et rapidement, et quand il s'agit des Outre-mer, il y a une absence totale de réponse de la part de l'État. Il faut pas oublier que même sous, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, encore récemment, on avait relancé le projet de continuité territoriale. quelques petites choses avaient été mises en place avec l'atome et autres, mais on n'a jamais mis en place un vrai programme pour justement permettre aux ultramarins d'entrer régulièrement chez eux avec des billets d'avion abordables. Donc, est-ce que les causes sont beaucoup plus, comment dirais-je, solides, sont beaucoup plus organisées pour pouvoir faire pression sur les tiers? C'est peut-être le cas, mais il va falloir que nous aussi dans les Outre-mer, qu'on soit capable de nous organiser et afin de faire pression sur les tiers. On ne doit pas, comment dirais-je, oublier ce que nous, on apporte. Et si ce qu'on apporte, on fait comprendre à la France, effectivement, voilà ce qu'on apporte à la France, vous avez plus intérêt à discuter maintenant avec nous, à mettre en place des choses. On doit arrêter d'être les enfants silencieux qui ne se font pas remarquer, qui restent discrets, qui ne veulent pas déranger. À un moment, on a des droits, il y a des choses qui ont été votées, qui ont été décidées. L'État doit les appliquer pour tous. Et là encore, on voit que selon les territoires, ben, les règles ne sont pas appliquées de la même manière. Et ça fait qu'on reste des Français loin de la France en réalité.
Kamal Valsin.
Ben on va prendre nos responsabilités.
Il y a une forme de dichotomie quand même dans le raisonnement, puisqu'on a Serge Etchimi qui demande que ça soit régularisé, qu'il y ait un espèce de moratoire sur 6 mois, une fixation à 500 euros. Et en même temps, on apprend que ces mêmes collectivités territoriales sont dans le consortium de Corsair. Ils sont dans le consortium de Corsair, ça veut dire qu'ils sont entrés dans le capital, que ce soit la Réunion, la Guadeloupe et la Guyane, ils sont dans le consortium, ils sont dans le capital. Donc, c'est quelque part, ils demandent quelque chose qu'ils peuvent demander en interne, puisqu'ils sont dans le capital. Alors, est-ce que ce n'est pas un faux-semblant? Est-ce que ce n'est pas un mauvais jeu que jouent les élus? Que jouent les présidents des collectivités?
Bah, j'espère que ce n'est pas le cas. Le problème d'être dans le capital d'une entreprise, tout marche selon notre part d'action. Ça veut dire plus on a des actions, plus on est capable de parler fort.
Alors juste, je rappelle que le consortium est composé d'entrepreneurs et de collectivités d'outre-mer et exactement. Ils sont actionnaires à 100% de la compagnie. Donc, c'est vrai qu'ils ont beau jeu de relancer l'État, d'interpeller l'État à dire « oui, assurer la continuité territoriale », alors qu'eux-mêmes, ils sont actionnaires. Donc, ils ont une capacité à décider. Donc, ils peuvent prendre la décision et ensuite, de la même manière que l'État a garanti Corsair à hauteur de 120 millions d'euros, par exemple, je rappelle qu'il a garanti Air France aussi à hauteur de 1 milliard, donc, on peut très bien le dire, hein, que ce soit pour Corsair, Air Caraïbes ou Air France, ils devraient pouvoir agir concrètement. Mais les présidents de collectivités territoriales jouent un double jeu, n'est-ce pas?
Donc, c'est fort possible parce qu'effectivement, il faut savoir quand un avion tourne sur le territoire, quand il reste sur l'aéroport, il paye aussi des taxes et autres. Donc, je pense qu'il faut peut-être plus de clarté dans qui paye quoi et combien ça coûte en réalité. Parce que, en réalité, personne ne connaît le vrai prix d'un billet d'avion. Je veux dire, quand moi, je vais à la pompe, je fais de l'essence, on a plus ou moins une idée combien ça coûte, même si il y a beaucoup d'omerta sur le vrai prix. Mais un billet d'avion, personne ne sait. Quand on regarde le détail d'un billet d'avion, on voit énormément de taxes. Donc, qui paye quoi, qui prend quoi, quel pourcentage qui revient à la compagnie et à l'État. Donc, peut-être il faut faire l'éclairage sur toute cette partie pour savoir en réalité qui se met beaucoup dans la poche et qui se fait voler. Bon, dans tous les cas, nous sommes ceux qu'on vole en réalité. Et une fois qu'on a défini qui fait quoi, on pourra dire qui doit mettre la main à la poche justement pour faire en sorte que les billets d'avion soient abordables. Mais comme je dis toujours, si Corsair vraiment veut jouer le jeu, rien n'empêche à Corsair de dire OK.
Mais il n'y a pas que Corsair. La problématique, c'est qu'on ne peut pas non plus cibler Corsair uniquement. Je pense que c'est l'ensemble de ceux qui desservent les lignes, finalement.
Oui, le but de parler de Corsair, ce n'était pas pour cibler Corsair, mais pour dire que si Corsair met en place des billets d'avion beaucoup moins chers, le jeu de la concurrence fait qu'Air France sera obligé de s'aligner parce que si personne n'achète chez Air France, eh bien, Air France va devoir s'aligner sous les prix. Donc,
Oui, mais en réalité, il y a une redistribution, par exemple, des congés bonifiés qui sont répartis sur l'ensemble des compagnies. Donc, quoi qu'il en soit, ils en récupèrent toujours une partie. Mais je voudrais quand même, puisqu'on parle de Corsair, préciser quelque chose. Aujourd'hui, Corsair est le seul et la seule compagnie aérienne qui dessert Pointe-à-Pitre, par exemple, à partir de la province. À partir de Lyon, à partir de Bordeaux, à partir de Nantes. Donc, c'est vrai que Corsair fait déjà un effort dans sa présence dans les provinces françaises, parce qu'on a beaucoup d'ultramarins qui sont en province, bien qu'il y en ait la majorité en Outre-mer. Mais c'est la seule compagnie Corsair qui fait l'effort. Par exemple, le 16 décembre, ils vont reprendre la ligne Lyon-Pointe-à-Pitre. Bien sûr, en saisonnier, hein, ça va durer 4-5 mois, mais quand même, c'est la seule compagnie pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, où on peut dire qu'on n'est pas obligé de descendre à Paris pour aller à Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France. On part de sa région directement au départ de Lyon et on va directement à Pointe-à-Pitre et on fait l'escale pour aller à Fort-de-France. Donc, aucune compagnie ne le fait. Air France ne le fait pas. Air Caraïbes ne le fait pas. Donc, je pense quand même qu'ils font ton effort. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut, il faut dire les choses, effectivement, mais il faut aussi mesurer quand il y en a un qui s'engage dans un processus plutôt bénéfique pour l'outre-mer. Mais ça n'empêche pas le fait que les collectivités territoriales sont dans le capital, dans le consortium, et qu'ils peuvent aussi faire une continuité aussi. Ils peuvent aussi mettre la main à la poche. Les collectivités peuvent subventionner aussi les billets à une certaine hauteur.
Oui, donc là, c'est déjà intéressant, effectivement, de côté Corsair. On voit que le fait que Corsair soit détenu par des ultramarins, si j'ose dire, ils ont déjà 100%. Ils ont déjà une autre vision. Ils arrivent à déjà apporter une réponse beaucoup plus pertinente, ça aide beaucoup plus proche. Ils savent où se trouvent les ultramarins. Donc ça, c'est déjà très bien. Peut-être qu'ils ont aussi une autre stratégie, peut-être qu'ils vont mettre en place, qu'il faut peut-être du temps, parce que ça, c'est assez récent, cette prise de contrôle de Corsair par ce consortium. Donc, ils ont peut-être une stratégie qui va être mise en place dans les prochains mois ou années. Mais en attendant, il faut permettre de soutenir l'économie, parce qu'on sait aussi de faire rentrer les ultramarins régulièrement, ça permet aussi de soutenir l'économie localement. Donc, il faut que l'État prenne ses responsabilités et respecte ses engagements, respecte les textes qui ont été votés pour mettre en place cette continuité territoriale, non seulement entre la métropole et la côte, comme il le fait, mais aussi la métropole et les outre-mer.
Alors, il y a une discrimination criante sur ce qu'on appelle l'égalité réelle. On a l'Assemblée nationale qui a voté une augmentation de 33 millions d'euros de la dotation de continuité territoriale pour la Corse. Alors que, donc, ce qui fait que la Corse, depuis une dizaine d'années, a à peu près 187 millions d'euros de dotation de continuité, alors que pour nous, les Outre-mer, on est à peine à 3 millions. Donc, c'est une forme de mascarade, c'est une forme de mépris quelque part et de non-prise en considération de la continuité territoriale des Outre-mer.
Oui, effectivement. Donc, il y a deux choses là-dedans. Il faut savoir que cette augmentation est ponctuelle, ce n'est pas quelque chose sur le long terme, c'est en un coup. Mais, comme je disais, on voit que les Corses sont beaucoup plus organisées et ça se fait entendre. Quand de l'autre côté, d'un côté, on a les Corses qui arrivent à se faire voter un tel budget supplémentaire et de l'autre, on a M. Letchimy qui part tout seul, comme un cow-boy, il y a un problème. Ça veut dire qu'il aurait dû déjà se concerner avec les autres présidents de région.
Là, il a été rejoint par la Fédération socialiste, oui. Puisque Béatrice Bellet, elle est secrétaire, je crois, de la Fédération socialiste de la Martinique.
Oui, mais même s'il a été rejoint, mais on n'arrive pas seul. On va déjà se concerner avec les autres, monter un vrai projet et ensuite dire voilà, là où nous voulons venir. Mais il est parti tout seul et après, les autres vont le rejoindre. Or, quand on regarde du côté des Corses, ils préparent déjà leur travail, ils prennent une décision et ensuite ils présentent cette décision. Et c'est ça qu'on doit faire, ça veut dire on doit avoir cette capacité à travailler ensemble. Je pensais même le fait qu'ils avaient monté ce groupe avec des Corses qui se trouvaient dedans, qu'ils allaient peut-être apprendre quelques ficelles du métier en disant voilà comment il faut faire. On va se reprocher des causes, lui poser des questions, demander comment ils font pour avoir les choses. Il faut peut-être faire ça et puis ensuite proposer des vrais projets ensemble, mais pas une personne qui parle, qui veut se faire voir comme le plus fort. Moi je dis, ça fait beaucoup de parler et à la fin on n'a rien parce qu'on ne prend pas au sérieux.
Alors, vous y croyez, vous, à ce bouclier tarifaire, un billet d'avion, 500 euros aller-retour pour départ métropole outre-mer?
Est-ce qu'on a eu le voyage de Macron aux Antilles depuis sa réélection? Non. Donc, il n'en a rien à faire.
Donc, vous êtes confiant ou pas?
Je suis conscient qu'on ne l'aura pas parce qu'on voit que depuis la réélection de M. Macron, qui a eu que du mépris pour les Outre-mer, d'ailleurs, regardez tout ce qui se passe à l'Assemblée, on n'entend jamais parler des Outre-mer, Macron ne prononce même pas. Regardons les émissions qu'il a faites sur France 2, j'ai très peu vu les Outre-mer devenir un sujet de priorité pour lui. Même la décision qui a été prise sur le zéro, le décarboniser, ça a été pris en France. Ça, c'est pas fait.
Décarboné. C'est vrai que.
Décarboné, oui. Décarboné. Voilà. On voit nulle part les Outre-mer sous le premier plan, à part pour envoyer un nouveau préfet pour cinq mois pour régler le problème des sécurités. Mais nous ne sommes pas écoutés, nous ne sommes même pas entendus, et je ne pense même pas que les sujets qui nous concernent arrivent jusqu'au président parce qu'il n'en a rien à faire actuellement.
Alors justement, puisque vous avez fait la transition, vous m'avez tendu la perche, ce nouveau préfet qui s'appelle Lalanne, on aurait dit une chanson, qui est délégué pour les problèmes de violence à Martinique, Olivier Servat a demandé la même chose. Olivier Servat veut aussi avoir son préfet délégué aux problèmes de violence en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'un préfet peut résoudre des problèmes de violence uniquement parce qu'il est nommé?
Là aussi, c'est une espèce de nuage de fumée ou je ne sais pas quoi, de croire que le préfet a la réponse aux problèmes de violence.
Un pansement sur une jambe de bois.
Oui, parce qu'à la rigueur, il peut prendre une décision de dire l'interdiction de vente d'armes en Martinique. Ça, je suis totalement pour. Je vois pas pourquoi.
Ça a déjà été fait, ça. Ça a déjà été fait.
Mais je veux dire, définitivement, je vois pas pourquoi on a des armeries en Martinique, ça n'a pas de sens. Mais le problème de la violence, comme on dit, c'est un problème qu'il faut régler en amont. Ça veut dire, l'insécurité sociale est liée à l'insécurité financière. Ça veut dire, si vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de conditions, vous n'avez pas de vision de l'avenir, cela crée cette insécurité qui entraîne ces problèmes de violence. Et tant qu'on n'a pas réglé le problème, donc ça veut dire, j'aurais préféré qu'il nous envoie un préfet dédié à l'emploi qui arrive avec une centaine de chefs d'entreprise dans son avion en disant, voilà, les entreprises que nous allons construire, les terrains sont là, voilà, c'est ça qu'on va mettre en place.
Mais c'est ce que M. Déo a fait. Il y a eu un club des investisseurs qui s'est réuni en Martinique avec Christian Déo. Je crois que c'est Christian, comprenant. Christian Déo, le fondateur de Meridam, je crois, qui est un fonds d'investissement. Donc, ils ont discuté de la condition de développement de l'entrepreneuriat en Martinique. Et ils ont la volonté, d'après ce qui est dit, de vouloir permettre l'émergence de start-up en Martinique. D'ailleurs, on l'a vu avec Innovation Outre-mer 6e édition, qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs en Martinique, en Guadeloupe.
Oui, mais justement, on a tous ces entrepreneurs et donc le but, c'est de dire, voilà, on peut avoir une volonté, mais cette volonté doit être accompagnée financièrement par l'État. Ça veut dire, entre la réunion d'aujourd'hui qu'ils ont eue, il faut qu'on ait les 6 mois, qu'on voit déjà les premiers chantiers sortir terre. Moi, je suis désolé, quand on voit les présidents de la République française ont toujours fait des voyages vers la Chine ou autre, dans les 6 mois qui suivaient, on voyait les entreprises sortir de terre comme des champignons. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de le faire, ils savent le faire. Donc, pourquoi on ne peut pas faire la même chose dans les Outre-mer? C'est ça que moi, je demande. Je ne veux pas un préfet qui va régler le problème de sécurité, il ne peut pas le faire. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de l'insécurité, je veux dire, financière, sociale et autre, on ne réglera jamais le problème d'insécurité.
Donc l'insécurité est liée à la précarité, c'est cela?
C'est complètement lié, c'est partout. Regardez le monde, comment le monde fonctionne. Dès lors qu'on a une telle augmentation d'insécurité, aujourd'hui, on parle du 26e homicide déjà en Martinique, depuis le début de l'année.
Justement, j'allais vous en parler, puisque je vous laissais terminer sur ce sujet-là. Et ça complète notre sujet, notre dernier sujet d'ailleurs. c'est que justement aujourd'hui, on a le 26e homicide. En plus, c'est une femme qui est décédée. Alors, on parlait de précarité. En même temps, quand on voit les conditions du décès de cette femme au Robert, hein, c'est au Robert que ça s'est passé, je me demande, est-ce que c'est vraiment une question de précarité, puisque ce sont des gens qui se sont… c'est lors d'une soirée. Hein, donc, je pense que là, quand on va dans des soirées, c'est plutôt pour s'amuser. Il n'y a pas forcément de la précarité là-dedans. Et il y a eu une bagarre qui aurait dégénéré en fusillade et une dame qui a été poignardée, hein, et qui est décédée par la suite. Donc, on a un homme et une autre femme aussi qui ont été blessés par arme à feu. Et en plus, on n'a même pas encore pu identifier tout le déroulement des faits. Alors, est-ce que cette espèce de violence récurrente, systématique, on a l'impression que c'est devenu une banalité en Martinique d'être tué, comme ça.
Moi, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on n'a pas tous les détails de l'enquête pour le moment. On est au début et on va avoir peut-être beaucoup plus d'informations par la suite. Mais je crois fortement que la précarité entraîne ce genre de situation. C'est vrai que les personnes qui sont déjà dans une situation précaire, j'ai envie de dire, on les retrouve tout plus souvent dans les boîtes de nuit, dans les fêtes, parce que ça permet de changer les idées. Quelqu'un qui se lève à 6h du matin, qui rentre à 20h du soir, il travaille tous les jours, il ne cherche pas à aller dans les boîtes de nuit ou quoi que ce soit.
Ça voudrait dire quoi? Parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle de précarité, de vraie précarité, ce sont des gens qui ont à peine de quoi se nourrir, qui ont des familles, qui ne peuvent pas se nourrir. Donc, quand on se retrouve dans une boîte de nuit ou dans des soirées où on sait le prix des bouteilles de champagne, où on sait qu'il faut payer, etc., etc., ces gens-là ne sont pas dans des conditions de précarité, puisque peut-être qu'ils sont dans une condition de précarité, peut-être de travail, etc., mais ils ont quand même de quoi payer leur virée. Donc, est-ce qu'on peut encore, par respect pour ceux qui sont vraiment dans la précarité, qui se conduisent bien, qui n'ont pas de problème avec la justice, qui élèvent quand même leurs enfants, qui se lèvent le matin quand même à 6 heures du matin, tôt, et qui sont là et qui n'emmerdent pas le monde et qui sont de bons citoyens?
Je pense qu'effectivement, on peut discuter là-dessus, on peut essayer d'entrer dans le fond du débat pour essayer de creuser, mais ça revient à psychanalyser la société martiniquaise, à psychanalyser toutes les sociétés, de voir qu'est-ce qui entraîne ça. Pourquoi effectivement on se dit on n'a pas de travail, on est au chômage, on a du mal, par contre, tous les jeudis soirs, on est en boîte de nuit, on est en train de dépenser des fortunes pour des bouteilles de champagne et autres. Mais si on reste que là-dessus, on risque de biaiser le débat et rester au niveau de l'iceberg. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, parce que quand on parle de précarité, effectivement, on parle de précarité immédiate, ça veut dire ce qu'on a dans la main, financièrement sur le compte, mais la précarité, ça peut être aussi sur le long terme, intellectuel, ça peut être éducatif, ça veut dire, est-ce que ces personnes sont capables de mettre un plan de vie, un plan de vie, quoi, ça veut dire ne pas voir la vie au jour le jour, mais le voir sous 20, 30, 40 ans, mettre en place tout un procédé.
Mais aujourd'hui, Kamal Vassin, excusez-moi de vous interrompre, mais aujourd'hui, personne ne peut prévoir sa vie sur 10 ans. Même sur 5 ans.
Non, on ne peut pas prévoir, mais aujourd'hui, on organise.
On sait qu'aujourd'hui, dans une vie d'adulte, d'un homme ou d'une femme, il va changer 2, 3, 4, 5 fois de travail, puisqu'on est dans une autre époque. On n'est pas dans l'époque de « on rentre dans un travail et on l'a à vie ». Donc, forcément, on va être dans une précarité momentanée au long de sa vie. On va rencontrer cette forme de précarité, même si elle est temporaire, mais on va être confronté à cette forme de précarité. Alors, est-ce qu'autant, pour autant, on devient un délinquant?
Donc là, on parlait de, tu parles effectivement de cette précarité au travail, mais moi, quand je parlais de la précarité pour l'incapacité d'organiser une vie sur 10-30 ans, par exemple, je prends le cas simple, celui qui dit, voilà, je vais investir dans une maison. Certes, il ne voit pas dans 10 ans, mais il est en train d'organiser une vie sous 60 ans. Donc, ça veut dire qu'il faut cette façon, cette intelligence qui permet justement aux personnes de dire où est l'essentiel de la vie, c'est quoi le plus important. Et malheureusement, l'absence de clairvoyance, l'absence de capacité de mener cette réflexion pour dire voilà ce qu'il nous faut pour organiser notre vie, mais ça aussi, ça crée de la...
Mais je ne vois toujours pas le fait générateur ou le rapport entre... ne pas pouvoir organiser sa vie et détruire celle des autres. Je ne pense pas qu'il y ait un lien logique à cela. On détruit sa vie, on la détruit. On ne détruit pas celle des autres. Kamal Valsin.
Oui, c'est pour ça que je dis comme ça, il faut peut-être on doit s'asseoir un moment et psychanalyser la société, pas seulement la société martiniquaise, mais dans d'autres sociétés, on a les mêmes phénomènes. Dès lors qu'on a cette insécurité, cette instabilité, on voit une forme de violence qui naît, qui se nourrit de tous les problèmes, toutes les difficultés, et au moindre petit choc, ça crée quelque chose d'explosif.
Donc, mais vous comprenez bien, Kamal Valsin, que...
Non, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais il nous faut, je pense que peut-être, je ne suis peut-être pas la bonne personne, parce qu'il faut être psychanalyste, il faut être capable de rentrer dans le cerveau d'une population, pas d'un homme ni d'une femme, mais toute une population. Il faut savoir l'étudier sous le long terme, et je pense qu'il y en a beaucoup, et je connais des gens qui travaillent sur ce sujet, pour justement expliquer qu'est-ce qui peut engendrer ce type de situation par rapport à la situation vécue. Donc, on a simplement une capacité, je veux dire, vous et moi, de tirer des conclusions des travaux qui ont été menés, mais peut-être il faudra qu'on invite justement un psychologue, quelqu'un pour justement nous donner le lien exact entre la dégradation de la situation économique d'une personne et le basculement vers la tragédie. Et souvent, on voit ces genres de choses-là. Maintenant, effectivement, il y a d'autres situations qui peuvent entraîner ça. On peut avoir quelqu'un qui est de bonne famille, qui est en boîte de nuit, qui a trop bu, parce que l'alcool, on sait que ça peut avoir des effets et entraîner des situations dramatiques. Donc, comme je dis, on n'a pas tous les effets de l'enquête de qu'est-ce qui s'est passé.
Mais ce qu'on peut dire, Kamal Valsin, c'est que le fait récurrent, c'est que si on ramenait ça en proportion à l'Hexagone, ce serait énorme. 26 homicides, 380 000 habitants, ici on a à peu près 65 millions, si on ramène ça en proportion, c'est démentiel, c'est démentiel. On ne peut pas simplement résumer ça à la précarité, puisque pratiquement ce sont des meurtres, ce ne sont pas des bagarres, ce sont des meurtres par arme, donc ce sont des morts par violence, c'est énorme. Donc, il doit y avoir autre chose. Il doit y avoir autre chose que la précarité.
Donc, il y a autre chose, je suis persuadé. C'est tout un facteur de plusieurs éléments qui font que la société devient de plus en plus violente. Et effectivement, il faut les bonnes personnes pour nous aider à s'analyser et à comprendre. Maintenant, il y a quelque chose que je ne fais jamais, c'est que je ne ramène jamais à la population de la Martinique à celui de la France. Pour moi, c'est deux choses différentes. Et ça permet,
en proportion, hein, c'est juste en proportion.
Oui, mais
en qualité, en proportion.
En proportion, c'est vrai que quand on utilise ça, on fait toujours peur. C'est comme si on montrait la Martinique comme un département la plus criminalisé, plus dangereux.
Mais Mayotte aussi, on n'a pas parlé de Mayotte, mais c'est la même problématique qu'il y a à Mayotte en Guadeloupe aussi.
Donc, c'est pour ça que je n'aime pas trop faire ces proportions parce que ça dénature la réalité. C'est comme les pourcentages. Quand on utilise des pourcentages, on a vu récemment avec Total où on disait, la valeur moyenne des salaires chez Total est tant, alors qu'en réalité, on sait que beaucoup étaient plus bas. Donc, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose, j'aime pas trop
les... On va bientôt conclure,
mais Kamal, je reconnais effectivement que dans nos sociétés ultramarines, on a une vraie flambée de la violence qu'on n'a pas encore tout à fait expliquée. On sait qu'en même temps que cette violence augmente, on voit aussi la courbe du chômage qui augmente, on voit aussi la dégradation de la vie des gens qui augmente aussi. Donc, peut-être tous ces éléments doivent être pris en compte et qui permettent d'expliquer une partie de cette augmentation de la violence. Et il y a aussi d'autres choses, parce que dans tout, il y a les vraies situations, il y a toujours les petites, les électrons qui tournent autour, des choses qu'on ne maîtrise pas, qui viendront s'ajouter à ça aussi.
Donc, c'est voilà. Écoutez,
qu'il va falloir psychanalyser et comprendre exactement le pourquoi du comment.
Alors, malheureusement, on arrive à la fin de l'émission, on approche l'heure, donc... on en débattra, on invitera un sociologue, un psychologue la prochaine fois. D'ailleurs, je pense qu'on fera une émission sur l'entreprise en Guadeloupe-Martinique. Et je vous remercie de nous suivre. Là, je parle aux téléspectateurs. Merci de nous suivre. Alors, l'actu de la semaine, c'est tous les samedis à 19h sur Anticausé TV. Voilà, donc je remercie tous ceux qui nous suivent et je vous dis À bientôt. Le dernier mot, Kamal?
Ben oui, donc ben, j'espère, bon, je pense à cette famille qui est malheureusement, ces familles qui seront malheureusement endeuillées. Donc j'espère que le préfet va pouvoir apporter une solution déjà pour essayer de contenir
Rapidement.
cette situation de violence. Mais c'est à nous, chaque citoyen, chaque Martiniquais, Martiniquaise, Guadeloupéen et autres, de prendre les choses en main pour faire en sorte que notre
D'accord.
pays soit le plus vivable possible et pour nous tous.
D'accord. Merci beaucoup. Alors, surtout ne quittez pas Kamal. Je dis au revoir. Alors, merci les amis. À bientôt. À bientôt. À samedi prochain. C'était
Kamal.
l'actu de la semaine.